SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité. Donc en Australie pour aujourd'hui, tout d'abord la campagne électorale qui continue donc dans le pays. Le Premier ministre Scott Morrison qui répond aux affirmations selon lesquelles la Chine aurait fait une annonce d'accord avec les îles Salomon qui serait peut-être une forme d'ingérence électorale. On va en parler. Et puis la situation en Ukraine également. Les Russes qui reconnaissent avoir bombardé certaines parties de Kiev, la capitale. Début de ce journal avec la campagne électorale donc en Australie qui continue. Je vous rappelle que vous serez appelé à voter si vous êtes australien le 21 mai. Le Premier ministre Scott Morrison défend une décision d'introduire une réduction de 10 dollars sur les médicaments et ce l'année prochaine plutôt que dans le budget récemment dévoilé. Si elle est réélue, la coalition promet de réduire donc le coût de tous les médicaments répertoriés sur le régime des prestations pharmaceutiques pour les maladies et les affections chroniques. Cela verrait le prix minimum de médicaments, donc PBS, passer de 42,50 à 32,50. Et pour Scott Morrison, c'est un changement important pour l'avenir et qui permettrait aux patients donc d'économiser, si on fait les mathématiques, 120 $ par an.
There are many things you can't control. You can't control the war in Europe. You can't control natural disasters. You can't control whether there's a pandemic or not. All of these things impacting on the prices Australians are paying every day. But what you can do is what we're doing. You can provide that relief. As we did in the budget, you can make the safety net more generous to help people who are on these medications, and you can reduce this non-concessional payment down by $10 on every single script.
Voilà, donc le Premier ministre Scott Morrison, d'ailleurs, il a été également invité à clarifier les commentaires du ministre de l'Intérieur qui a accusé ouvertement la Chine d'ingérence électorale. Karen Andrews a suggéré que la Chine avait programmé son annonce de l'accord avec les îles Salomon pour s'aligner avec la campagne électorale en Australie. Et pour Scott Morrison, que l'on écoute une nouvelle fois, l'Australie a mis en place toutes les protections de sauvegarde. On l'écoute.
We're very aware of the influence the Chinese government seeks to have in this country. We in fact introduced laws to prevent it. So any suggestion that the Chinese government doesn't seek to interfere in Australia, well, we didn't put that legislation in for no reason. We put it in there to ensure that Australians' security could be safeguarded from foreign influence in our own country.
Voilà, donc le Premier ministre Scott Morrison, cela survient alors que le Premier ministre des îles Salomon, Manaché Sogovare, a accusé l'Australie tout simplement d'hypocrisie. Il dit n'avoir entendu, quant à lui, parler que du pacte AUKUS, que l'on connaît très bien en France avec l'histoire des sous-marins. Mais le Premier ministre donc, des îles Salomon dit qu'il a entendu parler de ce pacte AUKUS que par les médias. On l'écoute.
I learned of the AUKUS treaty in the media, Mr. Speaker. One would expect that as a member of the Pacific family, Solomon Islands or members of the Pacific should have been consulted to ensure that this AUKUS treaty is transparent, since it will affect the Pacific family by allowing nuclear submarine in Pacific waters.
13h05, on va parler maintenant de la guerre en Russie, la guerre en Ukraine avec la Russie. Cela ne fait aucun doute, l'armée russe a donc bel et bien bombardé la capitale ukrainienne lors de la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Cela a été confirmé par les autorités russes. On écoute par ailleurs la réaction du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Clearing the debris continues in Kyiv, where Russian missiles hit yesterday during the visit of the UN Secretary General. It is unfortunate that such a deliberate and brutal humiliation of the United Nations by Russia has left without a powerful response.
Les propos traduits donc du Premier ministre, du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et sur le terrain à Mariupol, le destin de ces soldats et ces civils retranchés sous une usine principale donc de la ville, retranchés alors que les troupes russes avancent inexorablement sur la ville. Une opération humanitaire pourrait être organisée pour les sauver, mais ça met encore un peu plus en lumière la complexité pour les civils de quitter les zones de combat, comme ce témoignage de Mikhail. Il était réfugié dans la ville d'Enerhadora et il était au micro de RFI.
La ville d'Enerhadar a été occupée depuis le début de la guerre. On a donc vécu sous occupation. Ce n'était pas facile. On a vu les produits disparaître dans les magasins. On manquait d'essence. Mais je crois que la chose la plus terrible, ça a été de voir cette armée russe dans la ville. La façon dont ils marchaient dans la rue avec leurs armes et ce sentiment qui se dégageait d'eux de se sentir à la maison. Au final, on a trouvé un moyen de quitter Enerhadar, de sortir de tout ça, et on a pu fuir la zone sous occupation. La route n'était pas si sûre que ça, il y avait encore des bombardements, des mines, mais moi je ne devais pas montrer ma peur parce qu'il fallait à tout prix quitter cette région sous occupation avec ma femme, et au final on a réussi à le faire.
Voilà, donc les propos traduits donc de Mikhail, un réfugié qui est maintenant dans la capitale Kiev. Cette annonce maintenant, celle du président indonésien Joko Widodo. Il présidera la prochaine édition du G20 et il souhaite inviter Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky à la table des discussions. Une Indonésie qui souffle le chaud et le froid diplomatiquement et c'est pas nouveau, Vincent Sourio.
Surtout ne brusquez personne, c'est un grand classique de la diplomatie indonésienne qui revendique son non-alignement depuis les années 1950. À l'époque de la guerre froide, il n'était déjà pas question pour Jakarta de trancher entre l'Occident et la Russie. 70 ans plus tard, le président indonésien ne veut toujours pas choisir et malgré les pressions occidentales, il invite à la fois Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky au motif que le sommet du G20 doit, dit-il, rester apolitique. Très risqué car il y a peu de chances que Joe Biden, Emmanuel Macron ou Boris Johnson s'affiche dans la même pièce que le patron du Kremlin, accusé de crimes de guerre et mis au banc de la communauté internationale. Et dès les premiers jours du conflit en Ukraine, l'Indonésie avait certes condamné l'invasion russe, mais elle avait prévenu qu'elle ne sanctionnerait pas Moscou, trop risqué compte tenu des liens économiques entre les deux pays. Les Indonésiens ont besoin du pétrole russe pour maintenir leur économie à flot. Ils veillent aussi à ne pas fâcher la Chine, la superpuissance régionale, qui suit l'avancement du dossier ukrainien en silence. L'exercice d'équilibrisme de l'Indonésie devrait trouver son épilogue au mois de mai avec la visite à Washington du président indonésien dans le cadre du sommet entre les États-Unis et l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est.
Et c'était Vincent Sourio pour RFI. Alors vous en doutez, les Américains ne sont pas satisfaits par cette situation. Ils ne sont pas satisfaits par donc l'offre du président indonésien Joko Widodo. On écoute les explications de Stéphanie Schuller.
On ne peut pas faire comme si de rien n'était, a estimé le département d'État américain ce vendredi. Pas de réponse en revanche à la question d'un journaliste pour savoir si Joe Biden refuserait ou non de se rendre au sommet du G20. La situation de l'administration américaine n'est en effet pas aisée. Après avoir traité Vladimir Poutine de criminel de guerre et accusé la Russie de génocide en Ukraine, comment envisager de retrouver le maître du Kremlin lors du rendez-vous des grandes puissances économiques mondiales? La Maison-Blanche est réaliste, une expulsion de la Russie du G20 est improbable par manque de consensus. Lors d'une réunion des ministres des Finances du G20 en avril, la délégation américaine et plusieurs alliés avaient boycotté certaines réunions pour protester contre la participation des Russes. Les États-Unis pourraient-ils alors décider d'envoyer une délégation de rang inférieur à Bali? Une absence de Joe Biden laisserait toute la place à la Russie et à la Chine. Seul point positif relevé par l'administration américaine, l'invitation par l'Indonésie de Volodymyr Zelensky au sommet en novembre.
Et c'était Stéphanie Schuller pour RFI. Un ancien Marines américain âgé de 22 ans a été tué aux côtés des forces ukrainiennes donc dans cette guerre contre la Russie et c'est probablement le premier mort connu d'un citoyen américain combattant donc sur le terrain en Ukraine. Willie Joseph Cancel a été tué alors qu'il travaillait pour une entreprise militaire qu'il avait envoyé en Ukraine. Il était pompier volontaire à Walden, New York. Il avait un fils de 7 mois. L'attaché de presse donc des États-Unis, Jen Psaki, a déclaré que les Américains devraient totalement éviter de se rendre en Ukraine pour quelque raison qui soit. On l'écoute.
The reports about this individual were that he's a veteran. He had a child, I believe, and certainly sounded like a very passionate young man. We know people want to help, but we do encourage Americans to find other ways to do so rather than traveling to Ukraine to fight there. It is a war zone. It's an active war zone, and we know Americans face significant risks.
Voilà, donc l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Dan Psaki. Dans le reste de l'actualité, il était très critiqué, très contesté au sein de l'Union européenne. Le chef français de Frontex, Fabrice Leggeri, démissionne de son poste. Frontex, c'est l'agence européenne des gardes-côtes et des gardes-frontières. Ils sont donc en première ligne sur la crise des migrants, mais il a été pris dans une tourmente à Rembeng.
Directeur de Frontex depuis 2015, Fabrice Leggeri incarnait la lutte contre l'immigration clandestine dans l'espace Schengen. Régulièrement accusé de tolérer les refoulements illégaux des migrants, il faisait l'objet d'une enquête sur sa gestion de l'agence par l'Office européen de lutte antifraude. Selon le journal Le Point, il lui est reproché notamment de ne pas avoir respecté les procédures, de ne pas s'être montré loyal vis-à-vis de l'Union européenne et d'avoir mis en place un mauvais management au sein de l'agence. Ces dernières années, plusieurs journaux français et internationaux ainsi que des ONG ont également pointé du doigt la gestion du patron de Frontex des arrivées de migrants aux portes de l'Europe. Mercredi dernier, le quotidien Le Monde a publié une enquête décrivant des refoulements de migrants faits sans aucun respect des codes de procédure. Selon le journal français, Frontex a procédé à plusieurs renvois illégaux d'exilés vers la Turquie alors que ces derniers étaient parvenus dans les eaux grecques, ce qui les rend éligibles pour demander l'asile en Grèce.
Et c'était un reportage d'Aram Beng. Allez, pour conclure ce journal, et aux grandes dames de ses fans, Céline Dion a dû reporter une nouvelle fois sa tournée en Europe, officiellement pour des raisons de santé. Edmond Sadaka.
Je suis tellement désolée, attristée d'être obligée de repousser les spectacles une fois de plus.
Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, la star de 53 ans évoque des spasmes musculaires très douloureux, mais elle se veut tout de même rassurante.
La bonne nouvelle, c'est que je me sens quand même un peu mieux. Mais c'est sûr que ça va pas assez vite.
Céline Dion avait donné les 52 premiers spectacles de sa tournée avant le début de la pandémie, début 2020. Elle avait ensuite annoncé en janvier dernier qu'elle annulait la partie nord-américaine de cette série de concerts à cause de ses problèmes de santé. Le spectacle qu'elle devait donner à Paris en septembre prochain dans la gigantesque salle de la Défense Arena a été retardé d'un an. D'ici là, les fans vont devoir prendre leur mal en patience.
Et voilà, cette nouvelle, si vous êtes fan de Céline Dion et que vous pensiez aller voir un concert de Céline Dion en Europe, eh bien, ça a été repoussé. 13h13, on va faire un coup d'œil météo à travers le pays pour eux cet après-midi. À Perth, il fera 23 degrés. Adélaïde, 20 degrés. Melbourne, il fera 18. Vous aurez 16 degrés à Hobart, 19 à Canberra. Il fera 24 à Sydney. Il fera 27 à Brisbane, 29 à Cairns. Et comme à chaque fois, la palme du jour reviendra à Darwin et 34 degrés. On l'a vu dans ce journal, les grands titres, la campagne électorale qui continue en Australie. Le Premier ministre Scott Morrison questionné sur ses affirmations selon lesquelles le moment a été choisi par la Chine pour l'annonce de l'accord des îles Salomon qui serait une forme d'ingérence électorale. Et la situation en Ukraine, on l'a vu, les Russes qui reconnaissent avoir bombardé certaines parties de la capitale ukrainienne, Kiev. 13h14, on fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme tout de suite après ça.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.